Nous rencontrons ici, au musée Carrère, grâce à Carpaccio, deux représentantes de cette honorable corporation des courtisanes qui a toujours joué un si grand rôle dans la vie vénitienne. Celles-ci sont richement habillées, assises sur leur terrasse, leur altana, comme on dit à Venise. Elles jouent avec des chiens, avec un paon, avec un perroquet.
Le soleil de Venise en mes cheveux mûrit un or. Très haute fin dernière de toute alchimie. Et pareil à l'arc de pierre des ponts, regarde mes sourcils passer sur le péril silencieux de mes yeux, aux canaux liés par un échange secret, d'où vient en eux aussi que la mer change, s'élève et redescend, mystérieuse. Et ceux qui me virent, mon chien leur fait envie, à cause de cette main parée et pâle que je pose sur lui souvent, avec un geste d'abandon, mais froide, où ne mordra jamais le feu des fièvres. Et des enfants, l'espoir d'anciennes maisons meurt pour avoir bu le poison de mes lèvres.
Les courtisanes étaient extrêmement nombreuses à Venise, si nombreuses que l'on a, je crois, difficilement recensé ce nombre. On parle de plusieurs milliers et cela ne paraît pas étonnant puisque Montaigne, rien que dans le peu de temps qu'il a passé à Venise, en a tout de même rencontré 150, habillées, dit-il, comme des princesses. Au XVIIe siècle, au XVIe siècle plutôt, on leur avait enjoint, afin que, malgré le luxe de leur toilette, ou plutôt à cause du luxe de leur toilette, elles ne ressemblent pas trop donne et honeste aux femmes honnêtes, on leur avait enjoint de porter un châle jaune, alors que les donnes et honnêtes et les femmes honnêtes portaient un châle blanc. Malgré cela, ce qui est né émerveillé les voyageurs étrangers, et nous avons les rapports de voyageurs étrangers du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle, c'est de les voir habillés de couleurs vives qui les font ressembler à des jardins, et l'un de ces Anglais dit « Toutes ces femmes étaient comme autant de tulipes ». Ce qui est très curieux, c'est de voir que nous possédons la liste des courtisanes établie en 1570. Et c'est très amusant parce que cela, ce catalogue, comme on l'appelle, nous fait penser au fameux catalogo que Leporello tenait suivant les instructions de Don Giovanni. Et dans ce catalogue de 1570, nous voyons mentionner toutes les courtisanes, nous voyons leur adresse, ce qui est très commode, ce qui rendait de grands services aux étrangers, nous voyons même leur prix. C'est ainsi que nous voyons deux chiffres qui sont peut-être les deux chiffres extrêmes. Ils s'entendent la nuit, naturellement. Paolina Canero coûtait 30 couronnes la nuit. En revanche, si l'on était démuni d'argent et peut-être pas très difficile au point de vue de la beauté, on pouvait y avoir Diana La Fuina qui ne coûtait que 2 couronnes, 15 fois moins donc que Paolina. Aussi habitait-elle Rio della Fornaza, qui était un endroit populaire et assez mal famé.
J'entrais dans la chambre d'une courtisane comme dans le sanctuaire de la beauté et de l'amour. J'en crus voir la divinité dans sa personne. Je n'aurais jamais cru que, sans respect et sans estime, on pût rien sentir de pareil à ce qu'elle me fit éprouver. À peine eus-je connu dans les premières familiarités le prix de ses charmes et de ses caresses, que de peur d'en perdre le fruit d'avance, je voulus me hâter de le cueillir. Tout à coup, au lieu des flammes qui me dévoraient, je sens un froid mortel courir dans mes veines. Les jambes me flageolent, et prête à me trouver mal, je m'assieds, et je pleure comme un enfant. Qui pourrait deviner la cause de mes larmes, et ce qui me passait par la tête en ce moment? Je me disais, cet objet dont je dispose est le chef-d'œuvre de la nature et de l'amour. L'esprit, le corps, tout en est parfait. Elle est aussi bonne et généreuse qu'elle est aimable et belle. les grands, les princes, devraient être ses esclaves, les sceptres devraient être à ses pieds. Cependant, la voilà, misérable coureuse, livrée au public. Un capitaine de vaisseau marchand dispose d'elle. Elle vient se jeter à ma tête, à moi qu'elle sait qui n'est rien, à moi dont le mérite qu'elle ne peut connaître doit être nul à ses yeux. Ces réflexions si bien placées m'agitèrent au point d'en pleurer. Zulietta, pour qui cela faisait sûrement un spectacle tout nouveau dans la circonstance, fut un moment interdite. Mais, ayant fait un tour de chambre et passé devant son miroir, elle comprit. Et mes yeux lui confirmèrent que le dégoût n'avait point de part à cela. Il ne lui fut pas difficile de m'en guérir et d'effacer cette petite honte. Mais au moment que j'étais prêt à me pâmer sur une gorge qui semblait pour la première fois souffrir la bouche et la main d'un homme, je m'aperçus qu'elle avait un téton borgne. Je me frappe, j'examine. Je crois voir que ce téton n'est pas conformé comme l'autre. Je poussai la stupidité jusqu'à lui parler de ce téton borgne. Elle prit d'abord la chose en plaisantant, et dans son humeur folâtre, dit et fit des choses à me faire mourir d'amour. Mais gardant un fond d'inquiétude que je ne pus lui cacher, je la vis enfin rougir, se rajuster, se redresser, et sans dire un seul mot, s'aller mettre à sa fenêtre. Je voulus m'y mettre à côté d'elle. Elle s'en ôta, fut s'asseoir sur un lit de repos, se leva le moment d'après, et se promenant par la chambre, en s'éventant, me dit d'un ton froid et dédaigneux « Zanetto lascia le donne e studia la matematica. » Jeannot laisse les femmes et étudie les mathématiques. »
Visage de masque.
Le masque à Venise n'est pas un déguisement, mais un incognito. On ne change que rarement d'habit et tout le monde se connaît. Le nonce du pape étant masqué, un homme se mit à genoux et lui demanda sa bénédiction. Autrefois, que les Vénitiennes étaient très gênées, le masque, qui les délivrait de la suggestion, était un bon temps pour elles. Encore aujourd'hui, elles ne peuvent pas aller chez un marchand acheter ni se promener à la place Saint-Marc que dans le temps des mascarades, mais bien aller se faire dans leur gondole où elles vont avec qui elles veulent et où elles veulent. Depuis que les femmes sont devenues plus libres, les couvents où étaient la joie et les plaisirs sont devenus déserts. Le dérèglement des femmes du monde a mis la réforme chez celles qui y avaient renoncé. Il y a encore des religieuses qui ne s'étaient faites telles que par amour pour le plaisir, leur vieillesse seule les console.
Le carnaval de Venise a été décrit très souvent et fort bien par de nombreux écrivains. C'est vrai qu'il a tiré sur la lagune beaucoup d'étrangers. Mais parfois aussi un petit prince italien auquel prenait l'envie de se divertir librement en dépensant l'argent qu'il avait soutiré à ses fidèles sujets. À cette époque de l'année, Venise offrait d'innombrables amusements. Il commençait par des bals publics. On dansait pendant les 3 jours et les 3 nuits qui précédaient l'ouverture officielle du carnaval. et on se réunissait pour se faire dans la cour du Fontego dei Tedeschi, dans le quartier de San Bartolomeo. Le matin du jeudi gras, il y avait course de taureau au Rialto, et dans l'après-midi, on pouvait voir des équilibris sur la piazzetta près de Saint-Marc. Dans l'après-dînée du dimanche, se déroulait dans la cour du Palais Ducal une course de taureau molai, ou libre, et le soir du même jour se donnait un festin dans les grands appartements où étaient conviés des dames et des cavaliers. Tous les théâtres, tous les ridotti, tous les cercles de jeu étaient ouverts. Les boutiques de café, les trattorie, les malvasie, les auberges, les tavernes regorgées de monde, comme la piazza, la piazzetta, les rues, où, dans des baraques en bois, on pouvait admirer des bêtes sauvages, des funambules et des prestidigitateurs. Et les masques, comment les décrire? Ici, un pantalone conversé avec un zane ou un brighella. Là, un arlequin émerveillait les badauds par son éloquence. Et puis, des matamores, des paillasses, des truffaldinos, des jeunes femmes en robe et châle noir, des costumes régionaux, des pêcheurs, des gondoliers de Burano, de Chioggia, des îles environnantes. Il y avait des cochers faisant claquer leur fouet, des diables tenant un bâton d'où pendait une vessie gonflée avec laquelle ils battaient les enfants qu'ils cherchaient à attraper en courant. Les masques, qu'on appelle del confetto, ne manquaient pas non plus. Ils sont vêtus d'une blouse courte et blanche et portent un chapeau pointu garni de pompons et se promènent dans les rues en levant et en abaissant une longue canne au bout de laquelle, attachée par un fil, s'agite une grosse dragée que les passants doivent attraper avec leurs lèvres sans se servir de leurs mains. On remarquait les nagues, des hommes travestis en femmes qui imitent, en parlant d'une voix suraiguë, des demoiselles, des servantes bavardes et sottes, des nourrices plantureuses, des épouses géniardes, de vieilles grand-mères. Beaucoup de garçons et de filles, à l'air innocent, feignaient d'avoir un défaut de langue et en profitaient pour dire des grossièretés et raconter des histoires à double sens et obscènes. Au XVIIIe siècle, on finit même par rencontrer des masques revêtus de l'habit des religieuses, mais on interdit le port de ce costume en 1791 parce que le vendredi gras, on avait trouvé sous ce déguisement deux jeunes filles de bonne famille, qu'on les avait arrêtées, conduites chez Messire Grando, le chef de la police, mises dans un cachot, avant qu'on ne les ramenât en gondole chez leurs parents. Parmi tous ces nécromants, ces astrologues, ces poètes, ces docteurs, ces capitaines Spaventa, ces croque-mitaines, il y avait de très beaux costumes taillés dans de riches tissus brodés de pierreries et de fils d'or. Généralement, on les louait chez des revendigoli, des sortes de fripiers. J'ai entendu dire que quelques masques portaient une bague au petit orteil de leur pied gauche et que tout le monde pouvait la voir parce que leurs chaussures étaient découpées à cet endroit précis. Il paraît aussi qu'on rencontrait des individus qui accrochaient des anneaux en forme de cœur aux lèvres de leurs masques. Beaucoup allaient et venaient seuls ou formaient un couple, et les groupes se faisaient remarquer parce que généralement, ils étaient composés de dames et de jeunes cavaliers montés sur des chars, accompagnés de musiciens et de porteurs de torches, et qu'ils représentaient des scènes de la mythologie grecque.
Renvoie au lido, une gamme monte en fusée, comme au clair de lune un jet d'eau. À l'air qui jase d'un ton bouffe et secoue au vent ses grelots, un regret, ramier qu'on étouffe, par instant mêle ses sanglots. Au loin, dans la brume sonore, comme un rêve presque effacé, j'ai revu, pâle et triste encore, mon vieil amour de l'an passé. Mon âme en pleurs s'est souvenue de l'avril où, guettant au bois la violette assevenue, sous l'herbe nous mêlions nos doigts. Cette note de chanterelle, vibrant comme l'harmonica, c'est la voix enfantine et grêle, flèche d'argent qui me piqua. Le son en est si faux, si tendre, si moqueur, si doux, si cruel, si froid, si brûlant, qu'à l'entendre, on ressent un plaisir mortel. Et que mon cœur, comme la voûte dont l'eau pleure dans un bassin, laisse tomber goutte par goutte ses larmes rouges dans mon sein. Jovial et mélancolique, ah, vieux thème du carnaval où le rire aux larmes réplique, que ton charme m'a fait de mal.
Il a été chanté, célébré, décrit mille fois ce carnaval vénitien, et il a laissé dans la mémoire des générations un souvenir éclatant et délicieux. Son prestige, qui attirait une foule d'étrangers curieux du spectacle unique que donnait la cité enchantée, est si fort qu'il a survécu à sa désuétude. C'est en vain que le temps a passé, que les mœurs ont changé. Le carnaval de Venise continue à exister dans les imaginations séduites. C'est en vain que Venise est devenue la ville silencieuse. Elle a conservé un écho du rire d'autrefois, de ce rire masqué qui faisait d'elle une énigme vivante. Il n'était pas seulement ce carnaval un divertissement de société, une réjouissance populaire, mais aussi une institution d'État. Il avait une raison d'être politique et sociale. La Sérénissime République l'admettait comme un tempérament et un répit à la rude et despotique autorité qu'elle exerçait sur ses sujets. Il était un moyen de gouvernement, et à cette qualité est due une des plus étranges coutumes nationales qui ait jamais existé et qui autorisait le masque durant 6 mois de l'année, du premier dimanche d'octobre à la Noël et du jour des rois au carême, à l'Ascension pour 2 semaines et aussi au jour de la fête de Saint-Marc, à chaque élection de doge ou de procurateur, à la moindre occasion. Alors, Venise entière se masquait ou se travestissait. À ce dernier jeu, la fantaisie prenait libre cours. Sur la piazza, la piazzetta, le môle, la riva, couverts de tréteaux et de parades, une foule hétéroclite se pressait. Toute la comédie italienne était là, de Tartaglia à Pantalone, de Brighella à Arlequin, coudoyant des moresques, des turcs, turbans, bonnets pointus, souquenilles, oripeaux, nez postiches. Mais ce n'était pas au travestissement que le carnaval de Venise devait son caractère particulier. Son insigne propre était le masque, ce masque blanc si étrange et qu'encapuchonnaient la dentelle et le satin noir de la bauta. Sous le masque, il n'y avait plus de différence de rang. Masqué, on pouvait entrer partout, dans les salons comme dans les couvents, au palais ducal comme au ridotto. Le faquin devenait l'égal du patricien, le pauvre du riche, et tous, sous l'abri inviolable de la maschera, n'avaient plus qu'un même souci, le plaisir. Le masque est l'incognito, le secret, l'impunité assurée. Il est l'indépendance momentanée, l'oubli de tout dans l'oubli de tous, la liberté dans la fantaisie.
C'est sur la piazza, vers les 8 heures du soir, que la vie de Venise arrive à son maximum d'intensité. On ne saurait rien imaginer de plus gai, de plus vif, de plus amusant. Le soleil couchant illumine du rose plus vif la façade de Saint-Marc, qui semble rougir de plaisir et scintille ardemment dans ce dernier rayon. Quelques pigeons retardataires regagnent le pignon ou la corniche, où ils doivent dormir jusqu'au matin, la tête sous leur aile. La piazza est toute bordée de café, comme le Palais Royal de Paris, avec lequel elle offre plus d'une ressemblance.
Et sur cette place, que de souvenirs. Tous les hommes illustres de Venise sont venus ici. Au pied du campanile, il y avait les petites boutiques que Guardi a peintes si souvent, toutes les grandes fêtes qui avaient lieu ici. Et puis, plus tard, au XIXe siècle, l'orchestre. Il y a même eu, à certains moments, un horrible kiosque à musique en fonte, digne des villes de province les plus affreuses. Et dans ce kiosque à musique, on a joué, même à certains moments, on a joué du Wagner, comme on en joue toujours dans celui qui, heureusement, maintenant est en bois et provisoire. Et Wagner est venu lui-même s'entendre sur cette place.